On va passer à la partie de débat et pour commencer, je vais poser une question parce que j'aimerais bien y voir plus clair sur la notion de programme. Qu'est-ce que c'est un programme? Alors d'abord, il semblerait qu'en France, un programme soit national, ce qui ne doit pas être le cas en Allemagne ou aux États-Unis, et que du coup, comme il est national, ça dramatise l'élaboration du programme. Cette fois-ci, on l'a fait en un mois et demi, certainement on a battu un record. Mais qu'est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est quelque chose qui tient vraiment un enseignant? Alors quand le programme est monstrueux, j'imagine que l'enseignant doit avoir des marges de manœuvre, surtout si l'inspecteur lui dit « Bon, écoutez, n'exagérez pas, laissez tomber ceci et cela ». Est-ce qu'au fond, un programme tient autant un prof que dans le temps? Parce que je me rappelle, je ne sais plus quel ministre du début du XXe siècle disait « Je suis heureux de savoir qu'au moment où je vous parle, tous les élèves de France font le même thème latin ». Donc, je pense que ça s'est un petit peu ramolli quand même. Et dans quelle mesure un programme national tient tous les profs ou est-ce qu'ils s'en accommodent gentiment?
Alors justement, c'est intéressant sur les programmes qui sortent là aujourd'hui, parce que d'abord un programme, très simplement, c'est des finalités. Il y a des finalités globales et ensuite il y a des finalités avec des thèmes à aborder, des notions à aborder, etc. Donc ensuite, les moyens, normalement, c'est l'enseignant qui trouve en fonction de son public scolaire, etc. Mais c'est vrai que quand on arrive aujourd'hui à un certain degré de prescription et surtout quand les programmes deviennent très encyclopédiques, la marge de liberté se réduit. Très clairement, quand vous avez 3 heures pour présenter les intérêts de l'échange avec la notion d'avantage comparatif en 3 heures et sans le réutiliser ensuite, en fait, là, on voit que les programmes deviennent très prescriptifs parce que le temps imparti est très court. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire sur ces programmes-là? C'est courir après les 33 thèmes pour essayer de les traiter tous. Et en fait, ça va être impossible. Nous, ce qu'on dit à l'APSES, c'est simplement en fait, que ces programmes sont infaisables. Ils sont inapplicables. Ils ont été pensés contre les pratiques des enseignants. Très clairement. Et en fait, ils ne seront pas appliqués dans la... Voilà.
Alors, je reviens sur le sujet. Qu'est-ce qui vous force à vraiment suivre tous les 33 points? C'est l'inspecteur qui surveille? C'est des parents d'élèves qui remarquent qu'il a manqué quelque chose? Ou c'est le risque qu'un élève ait une mauvaise note à un examen? Qu'est-ce qui, en dehors de votre conscience professionnelle, qu'est-ce qui vous tient?
Alors, simplement, on est sur des programmes là, du cycle terminal, donc première terminale. Donc pour, en plus, une discipline qui n'existe pas au collège et qui existe de manière, on va dire, décorative aujourd'hui en seconde, puisqu'une heure et demie, c'est, et on dit nous-mêmes que c'est décoratif. Voilà. Mais autrement dit, c'est la finalité, c'est une évaluation nationale qui est au baccalauréat. Il faut savoir que ces programmes aussi ont été conçus sans qu'on sache comment on évaluera en fin de terminale. Alors qu'on sait bien que l'évaluation pilote les pratiques. On sait bien que le type d'évaluation en fin de terminale guide directement en fait, la manière d'enseigner les différentes notions et puis les choix que les enseignants font aussi dans la manière de les traiter. Parce qu'en gros, on a des programmes très simplement qui aujourd'hui empilent les notions sans que ça ait du sens pour les élèves. Et la question qu'on peut se poser, donc on peut imaginer des enseignants qui cherchent à appliquer ça et donc à empiler les notions pour toute l'année première sans que ça ait de sens pour les élèves. Je pense que les profs vont faire le tri là-dedans. Par exemple, sur certaines notions, ils vont choisir de les évoquer plutôt en terminale, plutôt en première, etc. Mais que là, l'écart entre cette norme qui se veut nationale et les pratiques va être très très important. En sciences de l'éducation, en fait, on distingue souvent le curriculum formel, que constituent les programmes, et le curriculum réel que constituent les pratiques. Moi, il me semble que sur ces programmes-là, qui vont plus loin que jamais en fait, dans l'encyclopédisme, l'écart va être énorme.
Marc Mousseli.
Oui, alors je ne suis pas du tout prof de sciences économiques et sociales, mais bien sûr, je m'intéresse un peu à cette discipline. Mais il y a une question qu'on n'a pas vraiment posée. Vous préparez des élèves au baccalauréat. Bon. On n'a pas posé la question de ce qu'est le bac aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le bac n'est pas fait pour sanctionner, si on veut, ou pour contrôler, ou pour vérifier un certain niveau d'éducation générale, si vous voulez? Et là, vous nous avez parlé de choses qui étaient quand même relativement spécialisées. Alors, si on revient très loin dans l'histoire, vous avez parlé de 40 ans d'histoire, quand Christian Fouché a demandé à ce qu'on mette en place les sciences économiques et sociales. Rappelez-moi quelles étaient les spécialités des gens qui ont mis ça en place. Le groupe de travail était présidé par Charles Morazet, qui était un historien, et les programmes ont été faits par un géographe et un historien. Bon. Derrière ces spécialités, alors qui étaient tous des gens très proches de Braudel, etc., enfin de l'école des annales, hein, école des annales quand même, qui, à travers laquelle on voit une certaine unité des sciences sociales, etc., même si aujourd'hui l'école des annales est un peu remise en cause. Alors, donc on voit bien que dès l'origine, cette discipline était conçue comme une discipline de culture générale, Et 40 ans après, à une époque où le bac a changé de sens un peu, puisque le bac général n'est plus un diplôme avec lequel on puisse directement se lancer dans le monde du travail. C'est un diplôme général, effectivement, de culture générale. Est-ce que cette prescience de Christian Fouché n'a pas encore plus de sens aujourd'hui qu'à l'époque où il a lancé les programmes ?
Très, très rapidement, puis ça fait écho peut-être aussi au débat qu'il y avait sur les sciences sociales et l'économie dans le supérieur. Moi, je crois qu'il faut rappeler que les sciences économiques et sociales, donc derrière, il n'y a pas forcément une conception d'une science sociale unifiée, hein, c'est une discipline scolaire. Donc c'est une discipline scolaire qui prend appui, bien sûr, sur des savoirs de communautés scientifiques qui, pour des raisons épistémologiques, des raisons historiques aussi, donc c'est tout un ensemble de raisons, puis avec une logique de spécialisation croissante aussi qu'on peut constater. Hein, c'est vrai qu'il y a une spécialisation plus importante aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40 ans. Ben, s'appuie sur un ensemble de savoirs qui sont produits par des communautés scientifiques, partiellement distinctes, mais parfois aussi qui collaborent sur certains objets. Donc, autrement dit, on a deux finalités, comme tous les enseignements scolaires. On a d'abord une finalité, c'est vrai, de contribuer à la formation citoyenne avec l'apport spécifique de nos disciplines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer les deux finalités. La deuxième finalité, évidemment, c'est d'introduire à ces disciplines-là, dans la mesure où elles permettent à des lycéens qui ne se destinent pas à être des futurs économistes ou à des futurs sociologues, mais avec ces outils-là, ça leur permet de mieux appréhender le monde qui les entoure, et puis éventuellement, peut-être après, d'avoir le projet de s'orienter dans des facultés d'économie, de sociologie, etc., et peut-être de définir un projet. Mais le point de départ, oui, on a des finalités qui sont des finalités d'un enseignement scolaire, avant tout, et qui ne peut pas être un décalque de ce qui se passe dans le supérieur.
Je suis très content que vous ayez rappelé ça, parce qu'effectivement, ça avait été fondé dans cet esprit-là. Il avait même été question que ça se substitue à l'enseignement d'histoire-géographie, dans l'esprit qui était effectivement celui de l'école des annales. C'était aussi une critique sur certaines traditions de l'enseignement de l'histoire. Et tout ce qui s'est passé depuis a été une marginalisation de l'histoire, du fait effectivement d'une demande de plus forte technicité en économie. Donc l'histoire reste, on n'en a pas parlé du tout ici, reste une des composantes. Moi, quand j'ai participé au jury du CAPES Sciences économiques et sociales, l'oral de sciences sociales, il y avait aussi un historien, mais on voit bien que l'histoire était devenue le parent pauvre de cet esprit général. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir rappelé ça et ces enjeux. Merci.
Gérard Gross, j'ai enseigné pendant environ 37 ans les sciences économiques et sociales. Et je voudrais poser une question à M. Guenry. Vous avez insisté, certainement à juste titre, sur le fait que la science économique était un savoir en mouvement et que certains débats qui pouvaient avoir une pertinence il y a 10, 20, 30, 40 ans n'étaient plus d'actualité aujourd'hui. Le débat entre les libéraux et les keynésiens, ou les libéraux, les keynésiens, les marxistes, par exemple. Bon. J'ai deux remarques, questions à ce sujet. Première remarque, il est possible que ce débat n'ait plus de pertinence aujourd'hui, ou du moins qu'il ne reflète plus aujourd'hui les débats tels qu'ils existent dans le monde académique de l'économie. C'est possible. Pour autant, est-ce que ces débats ne peuvent pas avoir un intérêt de formation pour les élèves ? Et je pense que c'est une chose qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration d'un programme et dans l'enseignement, c'est que on n'enseigne pas forcément le dernier cri de la science. Je ne pense pas que les mathématiciens au lycée enseignent les mathématiques d'aujourd'hui. Je ne pense pas que les physiciens au lycée enseignent la physique d'aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'obligation non plus à ce que les sciences économiques qui sont enseignées au lycée soient exactement les sciences économiques académiques, je dirais, scientifiques d'aujourd'hui. Ce qui, bien sûr, il faut éviter qu'elles soient en complet décalage. Mais donc, première idée, un débat même un peu dépassé peut peut-être avoir un intérêt en termes de formation intellectuelle pour les élèves. Et je crois qu'un débat sur libéralisme, keynésianisme peut avoir cet intérêt intellectuel. Deuxième remarque, qui est là une question qui vous est plus directement adressée. Le fait que certains débats soient dépassés ne signifie pas, je pense, qu'il n'y ait plus de débat en sciences économiques. Ou alors ça serait vraiment triste et la science économique ne serait plus une science s'il n'y avait plus de débat. Or, quand on regarde le programme de première, le nouveau programme de première, une des caractéristiques que n'a pas rappelé Rémi Jeannin, mais qui est essentielle, c'est que les débats en sont absents. Il n'y a plus de débat en économie. L'économie apparaît comme quelque chose de mort, de figé, comme un ensemble de certitudes qu'il faut apprendre, point la ligne. Et ça me paraît quand même effondrant en termes, là encore, de formation intellectuelle. Alors je voudrais avoir votre avis là-dessus.
J'ai simplement fait, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu un tour d'horizon qui essaie d'indiquer pourquoi c'est plus difficile d'une certaine manière d'être prof de SES que d'être prof de maths au lycée. Hein. Donc j'ai essayé de faire un petit peu ce tour d'horizon. Alors effectivement, j'ai dit, et c'est une des critiques qu'on a fait dans notre rapport, c'est vrai que dans les manuels et dans les programmes, il y avait une vision, il donnait une vision du savoir qui était une vision qui était figée dans les années 60-70, un savoir qui avait pas mal évolué depuis. Alors ça, je ne pense pas que c'est une très bonne chose. Parce que vous allez me dire, faire comprendre le débat qu'il y avait entre les keynésiens et les autres, c'est assez difficile. Alors là, je vais vous dire une chose qui n'engage que moi, qui n'est pas nécessairement dans le rapport. Je pense que l'histoire de la pensée économique est le sujet, un des sujets les plus passionnants. Et j'essaie de lire des textes d'auteurs le plus souvent possible. J'essaie de comprendre, de relier ce qu'ils disent avec ce que je comprends actuellement. Mais c'est extraordinairement difficile. Enseigner des choses qui relèvent de l'histoire, faire comprendre aux gens quel était le débat entre les disciples de Jean-Baptiste C et Valras au XIXe siècle français, c'est extraordinairement difficile. C'est extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne comprenez pas la situation économique de l'époque, les débats sur les questions de politique économique qu'il y a à ce moment-là, etc. C'est très difficile à faire. Alors, c'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement intéressant, mais c'est extrêmement difficile à faire passer à des gosses. Et pas uniquement d'ailleurs à des gosses, c'est difficile à faire passer à pas mal de gens qui font de l'économie leur métier. Ça, c'est mon sentiment. Alors, ceci dit, deuxième point, qu'il y ait des débats aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y a des débats, hein, surtout après la crise, les discussions entre économiques sont devenues souvent vives, parfois extraordinairement vives. Même des lieux censés être extraordinairement uniformes et qui avaient une pensée extrêmement stabilisée, comme l'Université de Chicago, que je me suis pas mal promené l'année dernière, sont des lieux où il y a énormément d'effervescence et de désaccords entre des gens qui étaient autrefois d'accord. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Et naturellement, je ne dis pas non plus qu'il faut faire comme si on en présentait un savoir complètement sans débat. Mais je veux dire qu'il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on comprend, puis il y a des choses qu'on comprend moins bien. Et donc moi, je suis tout à fait pour qu'on fasse comprendre les choses qu'on comprend. Je vais prendre un exemple, l'avantage comparé. Moi, je ne trouve pas déraisonnable d'expliquer aux gens ce qu'est l'avantage comparé. Je ne trouve pas déraisonnable. Je ne trouve pas ensuite déraisonnable de dire que c'est un argument pour le commerce international. Mais de dire ensuite qu'il y a beaucoup de débats. Parce qu'à côté de Ricardo, il y a Stopler-Samuelson qui dit « l'échange fait des gagnants et des perdants hein ». Et après, il faut savoir si l'échange faisant des gagnants et des perdants, on peut toujours compenser les perdants. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vouloir le faire? Donc, on ne va pas introduire l'ensemble du débat, parce que ça, c'est un cours de commerce international d'université, mais on peut faire passer une idée et dire que l'avantage comparé, c'est un des arguments utilisés dans le débat sur le commerce international aujourd'hui, et qu'il y a, disons, deux, trois conceptions des avantages du commerce international ou des inconvénients qui faire allusion sans prétendre les trancher au fond. Hein. Je trouve ça extrêmement raisonnable. Je ne pense pas raisonnable de vouloir faire entrer les lycéens dans les arcanes de ce débat, qui est extraordinairement difficile. Dire qu'il y a un débat, oui, absolument. En partant de choses qui sont des choses claires, l'avantage comparé, c'est une idée relativement claire. Voilà. J'aurais tendance à vous répondre de cette manière, mais ça ne vous...
Je crois que personne ici conteste l'idée que la notion d'avantage comparé, comparatif, etc., est une notion importante à saisir. C'était présent dans les programmes antérieurs. C'était présent en terminale, en fin de terminale. On pouvait y passer à peu près 10 heures. Donc à montrer justement, à travers l'explication du commerce international, comment on peut expliquer la division internationale du travail à partir de donc, cette notion de spécialisation et qui nécessite d'utiliser cette notion d'avantage comparé pour comprendre pourquoi des pays ont intérêt à se spécialiser, à ne pas tout faire eux-mêmes. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes. La question qui est posée, ce n'est pas la question de savoir s'il faut enseigner cette notion-là, c'est de savoir à quel moment l'enseigner et dans quel cadre l'enseigner. Donc là, je vais lire le programme de première. C'est la deuxième question qui doit être traitée en début de première par des élèves qui sont en fait des anciens élèves de seconde, hein, très simplement, donc qui ont fait des SES, mais qui ont survolé rapidement. Pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même? C'est le titre du chapitre. D'accord? Donc une question qui va susciter l'intérêt des élèves, bien sûr. Donc je me permets de lire quand même ce qu'il faut montrer. On montrera que l'échange permet de mettre à profit les différences entre individus et entre nations. On a 3 heures. On introduira à partir d'exemples simples d'échanges entre individus, l'avocate et son secrétaire selon Samuelson, les notions d'avantage absolu et d'avantage comparatif afin de montrer que l'échange engendre des gains,
dont la répartition peut être inégale et qu'il favorise la division du travail, toujours 3 heures. En s'interrogeant sur les raisons qui conduisent à se procurer sur le marché ce que l'on pourrait faire soi-même, plat cuisiné, service à domicile, etc., ou à acheter à l'étranger ce que l'on pourrait produire chez soi, en étant le problème, on mettra en évidence les avantages du développement des échanges, notamment entre nations. On a 3 heures pour faire ça. La liberté pédagogique, on en parlait, c'était votre question de départ. 3 heures, moi, il me semble que, parce que les notions économiques, cette notion-là a toute sa pertinence, elle fait partie de tous les manuels, etc. Mais elle doit, pour des élèves en plus qui ne se destinent pas forcément à devenir des économistes, elle doit être replacée dans un contexte qui leur permet de montrer l'utilité de cette notion-là. Le contexte qui permet de montrer l'utilité de cette notion-là, c'est l'explication de l'échange international, mais aussi de montrer que, par exemple, la secrétaire aimerait devenir avocate et comment, en fait, par exemple, l'avocat est devenu avocat. La spécialisation elle-même engendre des avantages. Il faut aller jusque-là. Et le problème, c'est qu'on voit une notion en 3 heures en début de première, mais on ne l'utilise jamais après, et on l'utilise éventuellement en fin de terminale. Donc là, le problème, c'est la logique. Est-ce qu'on part par des questions pour arriver aux notions, ou est-ce qu'on commence par empiler des notions, une trousse à outils, on va dire, et puis à la fin, vous verrez à quoi ça sert.
Cet exemple me paraît extrêmement révélateur, parce qu'effectivement, la finalité de la chose, c'est de justifier le développement du commerce international. Bon. Mais on aborde la question sur un mode effectivement très analytique, avec le schéma de Samuelson, auprès d'élèves dont je ne sais pas quelle est la connaissance qu'ils ont de l'histoire du commerce international, des enjeux aujourd'hui sur les grandes économies, comment les problèmes se posent. Donc moi, sur une question comme celle-là, c'est vrai que j'aurais d'abord envie de faire de l'histoire et de la géographie économique, et effectivement, de pouvoir aborder les instruments d'analyse après que, effectivement, le paysage ait été dressé, ce qui correspond quand même à des choses qu'ils entendent à la radio, à la télévision, etc. Bon, or là, effectivement, on a cette entrée par cet entonnoir analytique qui me paraît très loin des capacités perceptives d'élèves de première.
Et je crois que, d'ailleurs, pour rebondir un petit peu, c'était une des recommandations du rapport Guenry, c'était de renforcer les liens avec l'histoire-géographie et les mathématiques, et ça, on est tous d'accord, c'est une des forces de la série ES, mais le fait de l'enseigner en terminale, en fin de terminale, quand les élèves ont vu la mondialisation d'un point de vue géographique et d'un point de vue historique, ça donne tout son sens à une notion économique qui n'est pas évidente pour des élèves. Alors que là, au contraire, on va catapulter des notions qui sont considérées comme étant la trousse à outils pour ensuite survivre dans l'enseignement de l'économie. Voilà.